qu'il reste 5 minutes, peut-être finir une annonce sur la question de l'immersion et vos techniques respectives d'immersion dans les écosystèmes que vous reconstituez à partir de vos recherches. Abderrazak, vous nous avez expliqué votre expérience incroyable. Je crois que Michel aussi, vous avez des expériences similaires. Ma question de novice, c'est quelle est la part d'interprétation dans les milieux que vous reconstituez? Ou est-ce que c'est à 100% la retranscription des données collectées?
C'est les deux, en fait, parce que tous les écosystèmes qu'on peut, moi ce que j'appelle avec un jargon très, très géologique, les paléo-environnements, les paléo-conditions de l'époque, c'est basé sur tout ce qu'on peut faire selon une étude multidisciplinaire et multi-échelle, multiscalaire, les deux termes, ça me paraît. Et donc on part du terrain, d'abord, et puis on continue jusqu'au laboratoire, et puis après on va utiliser tout un tas de techniques plus ou moins sophistiquées. On regardera tout à l'heure quelques exemples lors de la présentation, et au final, à travers tout ça, on va reconstituer un certain nombre de... une base de données, tout simplement. Et à partir de cette base de données, en comparant avec le principe d'actualisme, donc il faut se méfier quand même, en comparant ce qui s'est passé pendant les périodes géologiques anciennes avec l'actualisme. Par exemple, les marées ont toujours fonctionné. Aujourd'hui, on a des marées sur les côtes bretonnes, en Vendéenne, il y a 2 milliards d'années, il y a 3 milliards d'années, il y avait des marées, et les gens le voient très bien, c'est bien enregistré dans la sédimentation, il n'y a aucun souci. Par contre, la différence, c'était la distance de la Lune par rapport à la Terre. Vers les 2 milliards d'années, la Lune était pratiquement, sous ton contrôle, 20-30% plus proche, et étant donné que les marées, c'est un effet d'interaction entre la Terre et la Lune, peut-être que le marnage est beaucoup plus important. Donc on intègre toutes ces données-là pour qu'au final, on arrive à dire, bon voilà, notre planète à cette époque-là, elle avait des conditions comme ça, et c'est avec l'oxygène, on est capable, avec des analyses géochimiques, je ne rentre pas dans le détail, on peut savoir si on avait de l'oxygène ou pas. On peut aussi calculer le taux d'oxygène dans l'atmosphère. Aujourd'hui, on a 21% d'oxygène dans l'atmosphère. Il y a 2 milliards d'années, il y en avait moins, évidemment, il y a 3 milliards d'années, encore moins. Et donc, à partir de toute cette base de données, on est capable aujourd'hui de reconstruire les conditions paléo-environnementales et les écosystèmes des périodes géologiques anciennes. Alors, en ce qui nous concerne, nous suivons dans 2 milliards et quelques. Et actuellement, on est en train de travailler aussi sur les 500 millions. Donc, j'expliquerai plus ça tout à l'heure. Parce que ces deux périodes qui sont deux périodes similaires en termes d'augmentation de l'oxygène. On a deux gros plus d'oxygène dans l'histoire, celui à 2 milliards et celui à 550. Et comme par hasard, dans les deux cas de figure, on va voir une émergence d'une vie complexe, tout change. On voit beaucoup de changements. Et, mais je ne vais pas trop dévoiler ce que je vais raconter tout à l'heure, mais c'est juste pour vous donner l'idée que les schémas ou les écosystèmes ou les immersions qu'on mène sont basés sur des données actuelles, des données scientifiques, que nous, après, par la suite, on arrive à compiler pour arriver à une histoire qu'on raconte, en fait.
Mais alors, juste pour que je puisse me figurer, est-ce que cette immersion aquatique que vous avez vécue à travers un écran, est-ce que ça se rapproche d'une immersion qu'on peut vivre, nous, quotidiennement, quand on se baigne ou pas? Ou est-ce que c'est complètement une expérience différente, on ne peut pas se figurer? Ou est-ce que ça part, en fait, d'expériences déjà connues et déjà...
Je pense qu'on peut vivre ce genre de choses, et il y a aujourd'hui pas mal. Encore une fois de plus, c'est le principe d'actualisme. Si vous baignez dans un lagon aujourd'hui, avec un masque, un tuba, vous allez balader entouré de bestioles partout, des méduses, des requins, de je sais pas quoi, enfin bref. Donc vous êtes, si vous êtes courageuse, vous allez vous balader dans un milieu comme celui-là. Moi, je l'ai fait dans un milieu de 2 100 000 d'années, donc je suis obligé de passer par le virtuel, j'ai pas trop le choix. Mais l'organisateur a besoin de données pour qu'il puisse arriver à ce stade-là, et puis on a beaucoup, on s'est beaucoup concerté. J'ai essayé de rapprocher le plus possible les gens qui ne connaissent pas de comment était notre écosystème à cette époque-là. Donc en se basant sur des faits, c'est pas un peu d'imaginaire évidemment, mais on est obligé de se baser sur des faits réels pour dire la température était du temps, la température de l'eau qui était très discutée aussi à cette période-là, parce qu'on a tout entendu. On nous a dit que les océans étaient à 80 degrés, ce qui est complètement faux. Mais heureusement que les techniques évoluent, et puis la science avance. Donc on a tenu compte de tout ça, Et je pense que ce qu'on a essayé de faire à travers cette immersion, c'est de rapprocher le téléspectateur le plus proche possible d'une situation qu'il peut vivre quand il va se balader à Tahiti ou au Bahamas. C'est l'occasion d'aller à Tahiti ou au Bahamas, c'est l'occasion dans un aquarium, mais voilà.
Oui, alors, on utilise cette réalité virtuelle pour préparer des opérations, par exemple, de Curiosity. Donc, Curiosity, c'est un véhicule qui est actuellement en fonction à la surface de Mars, dans lequel il y a deux instruments français, deux instruments de très forte contribution française, et donc, tous les soirs, au moins 6 jours par semaine, parfois 7 jours par semaine, donc, il y a 150 scientifiques dans le monde entier qui se mettent en téléconférence dans les centres d'intérêt, avec des moyens qui les immergent à partir des images réelles dans là où est Curiosity et sur ce qu'il va faire devant lui. On l'immerge souvent plutôt devant que derrière, mais on a les images derrière aussi. Et donc, on a des images en stéréo, hein, qui sont manipulées, et toutes ces scènes font un paysage, et ce paysage, on peut bouger dedans, mais on bouge dedans. Alors, il est prévu que pour 2020, ça puisse se faire à partir des lunettes, comme ça les scientifiques pourront travailler chez eux, directement branchés sur Internet, et ils pourront même avoir des systèmes en réseau, pouvoir toucher les roches, allumer des idées et démontrer clairement, directement, qu'elles puissent se réellement, s'ils veulent, etc. virtuellement. Donc, on travaille là-dessus. Ça existe déjà, mais c'est pas fait, ce n'est pas opérationnel. Mais tout ça, il y a des gens qui vont. Alors, ce qui est très amusant, c'est qu'en fait, bien entendu, sur les images réelles, il n'y a rien d'imaginaire. Enfin, c'est des données à votre pays. Hein.
Elles sont traitées par.
Alors, elles sont bien entendu traitées, bien entendu traitées. Et surtout, la NASA, on a des images brutes, mais la NASA, quand elle les présente, les met comme si c'était éclairé sur Terre. Avec la même spectre, avec un rétablissement du spectre. Terrestre, avec la luminosité terrestre. Et par exemple, on sait que là, il y a une section 1, c'est là de 300, mais il y a 3 fois moins d'énergie qui est venue de ce qui arrive. C'est forcément plus sombre. Justement, il n'y a pas d'oxygène qui diffuse la lumière du soleil, donc le ciel n'est pas bleu et le sol est différent. Quand on voit, là, et donc les Américains, ils ont mis des lumières, il y a des drapeaux américains déjà qui. Donc avec ça, ils peuvent déjà commencer à ajuster les couleurs. Et donc ils ajustent les couleurs pour être comme si on était, comme si on se prenait au Sahara. Et quand vous regardez les images de l'ESA qui sont magnifiques, ou les images de l'ESA qui font exactement la même chose, vous avez l'impression d'être sur Terre.